franceinter.fr.
L'Internet mondial pourrait arriver à saturation en 2023 selon des chercheurs britanniques de l'université d'Aston de Birmingham. Ils appellent cela la capacity crunch et c'est aujourd'hui donc à la une de la science en cause l'augmentation exponentielle de la quantité d'informations qui passent dans les fibres optiques. Le web va-t-il donc s'effondrer? Laurent Massoulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INRIA, responsable du laboratoire commun INRIA Microsoft Research. Et puis de l'autre côté du fil, Jean-Marc Manag. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste du web, justement. Laurent Massoulier, pour commencer, de quoi s'inquiètent exactement les chercheurs britanniques dans leur étude qui a été publiée donc il y a quelques jours à peine?
Donc le professeur Ellis s'inquiète de la charge de trafic sur les fibres optiques qui constituent le cœur de l'Internet.
C'est la seule chose qui l'inquiète ou pas?
Donc, il s'inquiète en même temps d'un coût énergétique associé, avec une consommation croissante liée à l'usage de l'Internet, et aussi du prix que les usagers auraient à payer si on devait augmenter la capacité de cette infrastructure en fibre optique de l'Internet.
Pourquoi il propose cette date alors de 2023, a priori?
Alors, ce qu'ils disent, c'est que selon leurs études, on n'arrive pas à faire transiter plus d'informations sur les fibres optiques. On a atteint une sorte de densité maximale. Et donc, pour augmenter les capacités des canaux déployés, il va falloir refaire des travaux d'infrastructure et rajouter de la fibre physique. Et que le temps de déploiement d'une infrastructure de fibre optique est de l'ordre de 5 à 6 ans.
Jean-Marc Manac, les fibres optiques justement, ce sont vraiment elles qui sont au cœur du réseau Internet et qui posent problème là dans ce cas précis?
Alors, c'est difficile de parler du cœur du réseau Internet parce que c'est complètement décentralisé. Ça passe par énormément de data centers, de points d'accès, de systèmes de peering différents. Donc il n'y a pas vraiment un cœur de réseau maintenant. C'est clair que vu l'augmentation de la bande passante, de plus en plus ces informations transitent par les fibres optiques. Après, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cet article qui est sorti en Grande-Bretagne, c'est que ça ne concerne pas Internet au niveau mondial. C'est la situation en Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire que tout Internet dans tous les pays du monde sera arrivé à saturation en 2023. Mais ce qu'il dit, c'est que il y a quelques années, en 2005, la bande passante était en moyenne de 2 mégabits par seconde en Grande-Bretagne. Or, aujourd'hui, de plus en plus, c'est 100 mégabits par seconde. Donc, à partir du moment où on multiplie en l'espace de 10 ans la bande passante par 50, lui, il estime que ça risque de continuer comme ça à exploser dans les années qui viennent et avec ce risque d'arriver à saturation.
Sauf que Jean-Marc, est-ce qu'on ne peut pas extrapoler à l'ensemble de la planète? Parce qu'a priori, les besoins des Anglais sont les mêmes ailleurs, non?
Les infrastructures ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Typiquement, aux États-Unis, c'est beaucoup plus centralisé que ça ne l'est en France. Donc après, il y a des pays, notamment en Afrique, où il y a beaucoup moins de bandes passantes. Après, ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'il y a une explosion des usages et une explosion des coûts en matière de bandes passantes ces dernières années, et que potentiellement, ça risque d'aller de mal en pis, j'ai envie de dire. Donc le cri d'alarme qu'il pousse, il est légitime. À savoir, il faut se poser maintenant la question, à la fois en termes de bandes passantes, mais également et surtout en termes de consommation énergétique, parce que son cri d'alarme, ça porte également sur l'explosion du coût énergétique de l'Internet. Il dit que c'était grosso modo, qu'on en est arrivé aujourd'hui à l'équivalent en Grande-Bretagne de 3 centrales nucléaires.
Sylvain ?
Oui, alors Laurent Massoulier, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que ces chercheurs britanniques ?
Non, pas du tout. En fait, je pense que le problème d'Internet n'est pas vraiment celui de la fibre optique. Si on a besoin de capacités supplémentaires aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'accès, notamment l'accès sans fil. Donc avec l'avènement de la 4G puis de la 5G, on va là retirer le vrai goulot d'étranglement de l'Internet aujourd'hui.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème des centres de données, là où sont stockés vraiment les fichiers, les vidéos?
Oui, tout à fait. En fait, le souci de consommation d'électricité vient plus des data centers. C'est eux qui hébergent des milliers de machines qui servent les vidéos. Et ce ne sont pas les fibres optiques qui consomment de l'électricité. Donc il y a un réel souci énergétique lié à l'opération des data centers. Mais là encore, on peut ne pas être aussi pessimiste que ce chercheur anglais. Des solutions existent. Notamment, on peut envisager d'avoir plus de data centers, plus petits, plus distribués, plus proches des usagers. Et ça résoudrait éventuellement à la fois le problème énergétique et aussi le problème de charge sur les fibres optiques.
Donc ça veut dire qu'il faudrait faire plus de petits data centers, Laurent Massoulier, ce serait une solution, ça, selon vous ?
C'est une piste, en tout cas. Et d'ailleurs, on a tous chez nous des serveurs qui dorment, qui ont de l'espace de stockage ou alors de la capacité de calcul, que ce soit dans nos Freebox ou Livebox ou nos laptops ou même nos téléphones. Et toute cette capacité est sous-utilisée, en fait. Donc on a potentiellement une poche de ressources qu'on pourrait exploiter et soulager ainsi les data centers ainsi que l'infrastructure du réseau.
Jean-Marc Manac, ce sont les vidéos aujourd'hui qui sont les plus gourmandes, a priori, en espace ou pas?
En termes de bande passante, oui, il y a eu des débats assez enragés aux États-Unis autour de la neutralité d'Internet, parce qu'il y avait des gens qui disaient, à partir du moment où vous vous abonnez à Netflix, la consommation en bande passante est considérable, bien plus importante que si vous vous servez d'Internet pour échanger des emails, et donc il y a des acteurs aux États-Unis qui voulaient que YouTube, Netflix, ceux qui diffusent de la vidéo, payent plus cher, ou alors que les internautes qui souhaitent regarder des vidéos payent plus cher leur abonnement à Internet.
Et à l'échelle mondiale, ça représente quoi la consommation énergétique d'Internet, précisément, sur la consommation générale ?
Au niveau mondial, je ne sais pas. Ce que dit le chercheur britannique, c'est qu'en Grande-Bretagne, ce serait entre 8 et 16% de la consommation électrique qui serait liée à Internet.
Ah mais c'est énorme.
Aujourd'hui, c'est considérable. Et je suis d'accord, cela dit, pour dire que un des gros problèmes, c'est effectivement au niveau des data centers. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que il faut de l'électricité pour faire marcher les ordinateurs et les serveurs, mais il faut aussi de l'électricité pour refroidir les serveurs, parce que ça chauffe énormément. Mmh. Et le coût énergétique tient aussi de la capacité de refroidissement. Et pour l'instant, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place pour essayer de recycler la chaleur. On a vu notamment des gens qui enlèvent leur chauffage et installent des serveurs à la place du chauffage. Et le serveur chauffe et ça chauffe la pièce. Mmh.
Laurent Massoulier, les chercheurs s'inquiètent du coût d'installation justement des fibres optiques. Qui paye véritablement là aujourd'hui ?
Dans le schéma économique actuel, sont toujours les opérateurs comme Orange ou British Telecom en Angleterre qui vont faire les travaux d'infrastructure. Et in fine, ce sont les utilisateurs, via leur abonnement, à un accès particulier à Internet. Mais il y a justement le débat de la neutralité d'Internet qui vient d'être mentionné. Qui est autour de cette façon, de cette équation économique de l'Internet. Parce que, dans une certaine mesure, les fournisseurs de services comme Google profitent de cette infrastructure. Eux, ils ne facturent rien à leurs usagers. Par contre, ils se rémunèrent sur la pub et sur la monétisation des données privées des usagers. Donc là, il y a potentiellement un ajustement à faire dans l'équation économique actuelle, puisque donc le débat de la neutralité d'Internet porte sur qui doit supporter les coûts de l'infrastructure. Et effectivement, c'est un peu au détriment des opérateurs.
Jean-Marc Manac, pour terminer, il y a un tweet là qui vient de nous arriver de Natacha. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire, dit-elle, le coup du grand bug informatique qui était programmé pour le 1er janvier 2000 avec cette histoire de saturation pour 2023 ?
Non, par contre, il y a un autre bug, mais qui est programmé pour 2038.
Ah bon,
c'est bien réel, qui tient à la puissance de calcul des ordinateurs. Et en fait, il y a plein d'ordinateurs qui, en 2038, ne pourront plus calculer la date parce qu'ils seront arrivés à saturation. Donc le prochain bug, c'est un autre bug, c'est en 2038. On a un peu de temps devant nous.
Donc on en a quand même un à l'horizon, là. Hein. Ça va faire plaisir à certains. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Massoulier et Jean-Marc Manac, pour vos explications. Donc suite à cette publication britannique, Sylvain, merci beaucoup. On peut bien sûr réécouter la chronique.
Le podcast sur franceinter.fr.
Et à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la découverte d'une galaxie très lointaine. Son petit nom poétique, c'est EGS-ZS81. C'est la galaxie la plus éloignée de la Terre. Elle vient d'être repérée par les astronomes de l'observatoire Keck à Hawaï. Elle se trouve à 13,1 milliards d'années-lumière de nous. Elle s'est formée seulement 670 millions d'années après le Big Bang. C'est une nouvelle pièce du puzzle des premières galaxies, dont les propriétés physiques sont très différentes de notre propre galaxie, la Voie lactée. Les enfants en surpoids, l'Irlande et le Royaume-Uni sont les pays d'Europe où la proportion d'enfants obèses ou en surpoids est la plus importante. Ce sont les résultats d'une étude sur 32 pays publiée lors du congrès sur l'obésité à Prague. L'Irlande est en tête des statistiques avec 27% des enfants de moins de 5 ans en surpoids ou obèses devant le Royaume-Uni. La France est en milieu de classement avec 11% des enfants concernés. La Suède, la Belgique et la République tchèque sont les pays où les enfants sont les plus épargnés par les problèmes de surpoids. Et puis une horloge ultra précise, elle ne dévierait que d'une seconde tous les 15 milliards d'années, soit plus que l'âge de l'univers. L'horloge atomique mise au point par les physiciens du laboratoire américain NIST a battu des records de précision. Elle utilise les propriétés de l'atome de strontium et c'est elle désormais qui fait référence pour la mesure du temps aux États-Unis. Les scientifiques se livrent actuellement une bataille de précision afin de définir un nouveau standard mondial pour la mesure du temps. Outre les Américains du NIST, les chercheurs français de l'Observatoire de Paris sont également dans la course.